VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, bienvenue dans cette édition de 18h30, temps universel, du lundi 9 mars 2020. Abdourahmane Dia, la présentation, voici les titres. Nouveau massacre au Burkina Faso, 43 villageois ont été tués dimanche dans des localités du Nord. Le président Kabore décrète un deuil national de 48 heures à partir de demain mardi. Le premier ministre soudanais Abdelham donc a échappé à un attentat à la bombe à Khartoum. Plus de 110 000 personnes atteintes de coronavirus dans le monde. La maladie a fait plus de 3 800 morts et causé la panique des marchés. L'Afghanistan plongé dans une crise institutionnelle après que le président et son rival ont été investis dans deux cérémonies distinctes. Ne ratez pas les informations sur l'actualité économique et le sport, mais tout d'abord le journal. Nouveau massacre au Burkina Faso où 43 villageois ont été tués dimanche au cours de plusieurs attaques dans le nord du pays. C'est ce qu'a annoncé ce lundi le gouvernement dans un communiqué. Selon des sources locales, il s'agissait d'attaques de groupes d'autodéfense en représailles distilles aux attaques djihadistes de Ouagadougou. Les précisions de Kader Traoré.
Le dimanche 8 mars 2020, 43 personnes ont perdu la vie dans une attaque à Dinguila et Barga, deux villages du nord du pays à la frontière du Mali. Dans un communiqué publié par le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement, on dénomme également 6 blessés. Les ministres de la Défense nationale et celui de l'administration territoriale ont été envoyés sur les lieux pour apporter le réconfort du gouvernement aux populations meurtries et faire le point de la situation, peut-on lire. Le communiqué précise également que le procureur du Faso, près le tribunal de grande instance de Ouaigouya, a été saisi et que tout est mis en œuvre pour amener le calme et la sérénité au sein des communautés touchées. Par ailleurs, les forces de défense et de sécurité ont été immédiatement déployés sur les lieux pour sécuriser les villages attaqués. Selon toujours ce communiqué, cette attaque est l'œuvre des personnes armées non identifiées. Par contre, des sources locales indiquent que cette barbarie serait l'œuvre des groupes d'autodéfense appelés Kogluwego en représailles aux attaques djihadistes dont certains indexent les populations peuls d'être des complices. C'est la deuxième fois que ces groupes d'autodéfense sont impliqués dans des tueries de populations civiles. En janvier 2019, des représailles intercommunautaires dans les villages de Yirgu avaient fait 46 morts selon un bilan officiel et plus de 100 morts selon les organisations de la société civile. Kader Traoré, Ouagadougou pour VOA.
Au Niger, le secteur judiciaire a été paralysé ce matin par une journée justice morte à l'appel du syndicat des magistrats. Ces derniers demandent aux autorités de transmettre à la justice l'audit ayant révélé des surfacturations et des livraisons non effectuées dans des achats d'équipements militaires. Le mouvement est bien suivi, aucune audience n'a eu lieu et tous les bureaux de l'administration sont fermés, a indiqué un responsable syndical. Le scandale a choqué l'opinion parce qu'entre décembre 2019 et janvier 2020, près de 200 soldats nigériens ont été tués dans des attaques revendiquées par le groupe État islamique au Grand Sahara. Au Nigeria, l'émir de Kano, l'une des plus grandes figures du pouvoir traditionnel dans le pays, a été détrôné par le gouverneur pour insubordination et manque de respect envers le pouvoir politique et religieux. Mohamedou Sanoussi, 58 ans, est l'une des plus grandes figures traditionnelles au Nigeria, particulièrement dans le nord musulman où il partage le pouvoir traditionnel avec le sultan de Sokoto. Il a été gouverneur de la banque centrale dont il avait été écarté en 2014 après avoir dénoncé des détournements de fonds massifs sous le précédent gouvernement fédéral. Au moins 35 personnes, dont des femmes et des enfants, ont été tuées et d'autres gravement blessées dans un accident de la route dans le centre du Ghana. En 2016, 70 personnes avaient également été tuées, 13 blessées dans une collision entre deux bus dans la même ville. Au Soudan, le premier ministre Abdallah Hamdok a échappé à un attentat à la bombe à Khartoum. Les détails avec Yacouba Ouédraogo.
Une explosion s'est produite au passage de la voiture du premier ministre Abdallah Hamdok, mais personne n'a été touché, a écrit Ali Bakit, chef de cabinet du premier ministre, sur Facebook. Le premier ministre a été visé par une tentative d'assassinat, mais il se porte bien et a été transporté dans un lieu sûr, a ensuite annoncé la télévision d'État. Radio Omdurman, une station d'État, a affirmé que le convoi d'Abdallah Hamdok a été visé par des tirs d'armes automatiques lors de l'explosion survenue dans le nord-est de Khartoum. Dans un communiqué, le Conseil des ministres a qualifié l'attaque de terroriste sans en désigner les responsables. L'attaque, qui n'a pas été revendiquée, a fait un blessé parmi les membres du protocole accompagnant M. Hamdok. Le secrétaire d'État américain adjoint aux affaires africaines, Tibor Nagy, a condamné l'attentat, réaffirmant le soutien des États-Unis au gouvernement de transition. La mission conjointe des Nations Unies et de l'Union africaine au Darfour a aussi condamné l'attaque, estimant qu'elle visait, je cite, à faire dérailler le processus de transition au Soudan.
La police du Malawi a annoncé l'arrestation de deux figures de la contestation antigouvernementale. Ils avaient appelé à faire pression sur le chef de l'État pour qu'il promulgue la loi permettant la tenue d'un nouveau scrutin présidentiel en mai. La Cour constitutionnelle malawite, saisie par l'opposition, a annulé le mois dernier la réélection du président Peter Mutharika en raison de fraudes systématiques et graves. Une loi votée récemment par le Parlement a fixé le nouveau scrutin à la troisième semaine de mai, mais le texte doit être promulgué par le chef de l'État.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
L'épidémie de coronavirus a franchi aujourd'hui, lundi 9 mars, le seuil des 110 000 personnes contaminées dans le monde et plus de 3 800 morts, selon les chiffres de l'OMS. À l'heure où la maladie s'est propagée aux quatre coins du globe, elle semble depuis ralentir sa progression en Chine. Le point avec Salwa Jafari.
Quelques 1500 nouvelles contaminations ont été rapportées depuis hier dimanche, notamment en Iran, où près de 600 nouveaux cas ont été enregistrés. L'Italie totalise près de 7400 cas. Les premiers cas ont été signalés en Bulgarie et en Afghanistan. Les derniers rapports de la Chine sont mitigés. Un hôtel utilisé comme centre de quarantaine dans la ville côtière de Quanzhou s'est effondré samedi, tuant 10 personnes et piégeant plus de 70 dans les décombres. Les autorités ont toutefois indiqué dimanche que le nombre de nouveaux cas avait baissé. L'Afrique compte pour l'instant 55 cas en Égypte, 20 cas en Algérie, 4 au Sénégal, 2 cas au Maroc, en Tunisie, au Nigeria et au Cameroun, et un seul cas au Togo. C'est un lundi noir pour les marchés mondiaux. Les principales bourses européennes ont cédé à la panique face à l'accélération de l'épidémie et l'effondrement historique du marché du pétrole. Les marchés asiatiques et américains sont également affectés.
Le président afghan Ashraf Ghani et son principal adversaire Abdullah Abdullah se sont tous deux déclarés présidents ce lundi, plongeant leur pays dans une crise institutionnelle alors que d'importantes négociations avec les talibans doivent bientôt démarrer. Ekiabadou.
Deux explosions ont retenti pendant les cérémonies, ce qui souligne le niveau d'insécurité dans le pays, alors que les États-Unis ont signé un accord avec les talibans le 29 février à Doha, dans lequel ils s'engagent à un retrait complet des troupes étrangères sous 14 mois, en échange de garanties sécuritaires. « Je ne porte pas de gilet pare-balles, seule ma chemise, et je resterai même si je dois y laisser ma tête », a lancé M. Ghani sans quitter l'estrade après avoir juré d'obéir et de protéger l'islam et de respecter et de superviser l'application de la Constitution. Le chef de l'État sortant a été investi devant un parterre de diplomates quelques minutes avant que M. Abdullah, le perdant du scrutin de septembre 2019, ne se déclare également président d'Afghanistan dans une autre aile du palais présidentiel. Le scénario rappelle les pires moments du scrutin de 2014 que les mêmes protagonistes affirmaient également avoir remporté. La crise constitutionnelle avait alors duré 3 mois et n'avait été solutionnée que grâce à une médiation des États-Unis. C'est dans ce climat qu'un dialogue inter-afghan doit réunir mardi les talibans, les autorités, l'opposition et la société civile pour tenter de trouver un terrain d'entente sur l'avenir du pays. La division au sein de l'exécutif ne peut qu'affaiblir Kaboul et renforcer les positions des insurgés.
Le procès de 4 personnes accusées d'avoir provoqué l'explosion en 2014 d'un avion au-dessus de l'Ukraine, tuant les 298 personnes à bord, s'est ouvert aux Pays-Bas ce lundi. Les 4 suspects, 3 Russes et un Ukrainien, ne se sont pas présentés à l'audience. Le tribunal a décidé de la poursuite du procès malgré leur absence. Les familles des victimes, dont plusieurs ont fait le déplacement pour assister à l'audience, réclament que justice soit faite plus de 5 ans après la catastrophe. Et puis l'Union européenne, les dirigeants de l'Union européenne et de l'OTAN reçoivent ce lundi le président Erdogan de la Russie pour discuter de la crise migratoire. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. L'actualité économique en Afrique dans la Minute Éco présentée par Nani Talani.
L'Algérie et la Guinée équatoriale ont signé un accord cadre pour développer le réseau de transport et de distribution de gaz. L'accord prévoit également la fourniture de compteurs de gaz de fabrication algérienne, la formation, le transfert d'expertise et de connaissances ainsi que l'exploitation. Le groupe algérien Sonel Gaz soutiendra toutes les étapes et opérations pour organiser et structurer le réseau gazier en Guinée équatoriale qui a enregistré d'importantes découvertes de gaz offshore. L'Angola, le Nigeria ou l'Irak risquent d'être déstabilisés en raison du coronavirus qui fait chuter les cours du pétrole, s'inquiète l'Agence internationale de l'énergie. Ces pays pourraient connaître des difficultés à financer des secteurs comme la santé, les emplois ou l'éducation, mettant au défi leur stabilité. L'agence les invite à développer des économies plus dynamiques et diversifiées pour moins dépendre de la manne pétrolière. Déjà ce lundi, l'or noir s'est effondré de plus de 30% en Asie. C'est sa pire chute depuis la guerre du Golfe de 1991. Pour terminer, les gouvernements doivent apporter une réponse internationale coordonnée pour atténuer l'impact économique du coronavirus, souligne ce lundi l'économiste en chef du FMI, Gita Gopinath. Afin d'aider les ménages et les entreprises affectées, l'économiste préconise des aides directes et des allègements fiscaux. L'enjeu est d'empêcher qu'une crise temporaire ne nuise de façon irrémédiable à des personnes et à des entreprises en raison de faillites et de pertes d'emplois dans des secteurs tels que le tourisme et l'hôtellerie.
Présent la page des sports avec Yacouba Ouedraogo. Yacouba, bonsoir.
Bonsoir Abdourahmane, bonsoir à tous.
Les affiches des demi-finales de la Coupe CAF sont connues.
Oui, un Ouest africain a résisté à l'hégémonie nord-africaine en se qualifiant pour les demi-finales. Il s'agit de Oroya de Conakry qui a battu 2-0 les Nigériens d'Enimba. Après le match nul, un but partout à l'aller, les Guinéens affronteront en demi-finale les Égyptiens de Pyramide FC qui ont écarté les Zambiens de Zanaco. L'autre demi-finale se jouera entre deux clubs marocains. La Renaissance sportive de Berkane, qualifiée aux dépens des Égyptiens d'Al Masry, sera face à Hassania Agadir, deux fois vainqueur des Libyens d'Al Nasr. Ces deux demi-finales auront lieu le 3 mai prochain.
Le dernier carré de la Ligue des Champions est aussi connu.
Oui, ce sera entre Marocains et Égyptiens. Les clubs de Casablanca affronteront leurs homologues du Caire. Les Marocains du Wydad Athletic Club, tombeurs des Tunisiens de l'Étoile du Sahel, affronteront Al Ahly qui a sorti les Sud-Africains du Mamelodi Sundowns. Le Zamalek qui a éliminé le double tenant du titre, l'Espérance de Tunis, en découdra avec le Raja de Casablanca qui a sorti les Congolais du tout-puissant Mazembe. Le club de Lubumbashi, dans la foulée, a limogé son entraîneur Pamphile Miayo, remplacé par le franco-serbe Drazen Sekovic. Les demi-finales allées sont prévues les 1er et 2 mai et les matchs retour une semaine plus tard.
La suspension de Jarion Lawson annulée.
Oui, le tribunal arbitral du sport a annulé la suspension de l'athlète américain pour 4 ans pour dopage. Il a été contrôlé positif sur la base d'un échantillon prélevé l'été dernier. Jarion Lawson a ensuite été suspendu à titre provisoire depuis août 2018, puis pour 4 ans en juin 2019. Pour expliquer son contrôle positif, l'Américain a invoqué la consommation de viande de bœuf. Le TAS a estimé que cette explication est plus que probable et a jugé que l'athlète n'a commis ni faute ni négligence. Lawson a remporté la médaille d'argent du concours de saut en longueur au championnat du monde de Londres en 2017 avec un saut à 8,44 mètres derrière le Sud-Africain Luvo Manyonga.
NBA, les Lakers remportent le derby de Los Angeles.
Et oui, les Lakers de LeBron James ont pris le meilleur sur les Clippers dans le choc du dimanche en NBA, 112 à 103. Rendez-vous le 9 avril pour le quatrième duel entre les Lakers leaders à l'ouest et leurs dauphins. En attendant, sans Gianni Antetokounmpo,
Souffrant d'une entorse du genou gauche, les Bucks de Milwaukee ont concédé une deuxième défaite consécutive, leur troisième en quatre matchs à Phoenix, 140-131. Les Raptors de Toronto ont enregistré une troisième victoire au forceps face à Sacramento, 118-113, tandis que les Celtics ont cédé pour la quatrième fois sur leur parquet en cinq rencontres face à Oklahoma City, 105-104. Washington est tombé sur son propre parquet devant Miami, 100-89. Et enfin, Indiana a pris le dessus sur Dallas, 112-109.
Merci, Yakuba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Abdourahmane Dia, toujours en votre compagnie. À présent, les dossiers du jour. De nombreuses jeunes filles camerounaises sont victimes de traite et de trafic d'êtres humains. C'est ce que révèle une association locale qui a mené des recherches sur le sujet ces trois dernières années. Ces camerounaises sont revenues pour la plupart de certains pays du Golfe Persique et d'Afrique du Nord. Le gouvernement, ses partenaires internationaux et la société civile veulent éradiquer ce phénomène. De Yaoundé, la correspondance d'Emmanuel Jultap.
Quand on m'a vendu, c'est quand on m'a capturé dans l'eau. Nous étions plus de 200 personnes, d'autres sont même morts.
Edwige Christel a tenté la traversée de la Méditerranée pour l'Europe en passant par l'Algérie, le Maroc et la Libye. C'est dans ce dernier pays qu'elle a été victime, dit-elle, de traite et du trafic humain.
En Libye, j'ai fait 6 mois pour essayer d'entrer en Italie et j'ai été malheureusement capturée à la Méditerranée. J'étais enceinte de 6 mois. On a demandé la rançon à ma famille, 3 500 000. Ils ont envoyé, je suis sortie et c'est là que la Croix-Rouge là-bas en Libye nous a récupérés. Ils nous ont envoyés dans les différents camps de l'Union européenne pour nous rapatrier.
Le cas d'Edwige Christel est loin d'être unique au Cameroun.
J'avais pour voisin un policier qui me dit « j'ai mon réseau à moi ». Par exemple, au Koweït, tu auras l'opportunité non seulement de poursuivre tes études en médecine et aussi de travailler en même temps, tu seras rémunéré 600 000 francs.
Séduite par l'offre, Berthe Olga, alors étudiante, va céder en contrepartie une parcelle au policier en question. Mais en réalité, Olga avait été vendue au profit d'une agence au Koweït comme personnel de ménage dans 3 familles successives.
Ce sont des grands salons où il faut nettoyer de fond en comble. Et à longueur de journée, on ne cesse de vous répéter, est-ce que tu sais que tu m'as coûté cher, tu m'as coûté très cher, tu n'as pas le droit de t'asseoir. Peu importe, tu dors à minuit, 1 ou 2 heures, à 4 heures, tu dois être debout. On crache sur toi, on te baffe, parce que je mangeais presque pas.
La famille de Berthe Olga a dû payer 1 200 000 francs CFA à l'agence qu'il employait pendant 2 ans au Koweït pour qu'elle retourne au bercail. Au Cameroun, le ministère des Affaires sociales et le bureau de l'Organisation internationale pour les migrations ont institué le projet Évaluation situationnelle de la traite des personnes au Cameroun. L'association OPI Human Migrant est l'un des partenaires techniques du projet. Cyril Némandé, président de la dite association.
Il y a autour de 4000 Camerounais ces 3 dernières années, confondus hommes et femmes, enfants même, qui ont été victimes de traite et de trafic dans notre pays. Sur les routes de la migration irrégulière, 90% sont victimes. Parce que déjà, il faut savoir que la traite englobe beaucoup de phénomènes. Ça englobe l'exploitation sur les routes. Il y a des personnes qui, par exemple, lorsque vous n'avez pas de téléphone, c'est elles qui sont en contact avec vos familles et qui perçoivent de l'argent de vos familles et ne vous les restituent pas. Il y a des travaux forcés, il y a de l'esclavage, il y a la prostitution sur les routes.
L'une des affaires de trafic humain des filles camerounaises au Koweït a fait grand bruit l'an dernier. La plus haute autorité de la police s'est saisie du dossier suite à une dénonciation de la victime. Yaoundé, Emmanuel Jultap, VOA Afrique.
Washington, VOA Afrique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Au Bénin, la loi des finances 2020 oblige les entreprises à délivrer aux clients des factures normalisées comportant des données comme la TVA. Il était ainsi demandé aux entrepreneurs de s'équiper de la machine électronique certifiée de facturation avant le mois de mars. Mais le 23 février, les députés ont adopté une mesure exemptant les petites entreprises de cet achat. Nathalie Barge a joint Sandrine Medegan, promotrice de produits locaux pour la plateforme Made in Benin Market, qui fait le plaidoyer des petits producteurs.
avec un coût de près de 500 000 francs à débourser pour acheter les machines à facturation. C'était un gros coup de massue porté aux petites entreprises qui, pour la plupart, n'ont pas du tout de gros capital. Donc, depuis le 23 février dernier, la DGI a exempté justement ces petites et micro-entreprises à l'achat de ces machines. Et les machines ne sont plus destinées aux entreprises assujetties à la DVA, soit les entreprises qui font un chiffre d'affaires de plus de 50 millions. Du coup, c'est un gros soulagement pour nous.
Est-ce qu'il vous a été proposé des solutions alternatives pour pouvoir contrôler également les revenus de ces petites entreprises ou non?
Actuellement, ils sont en réflexion parce qu'entre-temps, ce n'est qu'une déclaration sur la confiance. Donc, du coup, la réflexion continue au niveau de la direction des impôts pour trouver des solutions plus adéquates.
Quelles sont les difficultés que vous rencontrez, notamment, pour produire tout cela?
La principale difficulté que nous avons, c'est l'accompagnement. Parce que nous recevons tout plein de producteurs qui n'ont pas forcément les moyens de communication sur leurs produits. Ce que nous faisons, c'est vraiment de la communication classique, de la communication avec des moyens de bord. Donc, nous n'avons pas vraiment les moyens de porter plus haut ces produits locaux-là, en communiquant à plus grande échelle.
Est-ce que vous bénéficiez de certains crédits intéressants?
En tant que petite entreprise, nous n'avons pas de moyens de garantie fiable. Donc, du coup, nous ne pouvons même pas aller vers les grandes banques, parce que c'est des banques qui vous demandent des garanties assez colossales. Pour les entreprises que nous avons, ce n'est pas encore possible. Nous ne pouvons travailler qu'avec l'informel, c'est-à-dire avec les usuriers qui nous prennent plus d'argent en intérêt que nous ne recevons au final pour nos entreprises.
Est-ce que vous avez accès aux grandes surfaces?
Assez oui, on a quand même les grandes surfaces assez accessibles, mais le paiement au niveau de ces grandes surfaces revient poser le problème d'accompagnement, de financement en fait. Parce que lorsque vous déposez des produits en grande surface, un lot de produits de 250-300 000 francs, et qu'on vous dit qu'il faudra attendre 45 à 70 jours avant d'être payé, on n'a pas les moyens de produire plus pour pouvoir supporter en attendant le paiement de ces grandes surfaces-là.
C'était donc c'était Nathalie Bache qui avait joint Sandrine Medegan au Bénin. Le dimanche 8 mars marquait la Journée internationale des femmes. Cette journée, reconnue par les Nations Unies, est célébrée dans de nombreux pays du monde depuis plus d'une centaine d'années et l'occasion de faire le point sur les progrès accomplis en faveur des droits des femmes et de rappeler l'importance de continuer la lutte pour l'égalité dans les domaines économiques, politiques et sociaux. Tour d'horizon des événements qui ont eu lieu sur le continent avec Dilly Dico.
À Dakar, à l'occasion du 8 mars, des femmes sénégalaises ont organisé une course automobile exclusivement féminine. Khadija Ndiaye, l'une des pilotes du circuit Trophée Mousseau, s'est dite très fière.
Cette course représente beaucoup pour moi. Déjà, ça va me permettre de voir jusqu'où je peux aller. C'est un grand challenge pour moi. Et le fait de participer avec toutes ces femmes, c'est vraiment quelque chose que j'apprécie. Et en plus, en ce jour de 8 mars, ça représente beaucoup quand même pour nous les femmes, cette journée.
En Côte d'Ivoire, dans le village agricole de Kokoti Kouamekro, une association de femmes a formé une cellule féminine de renforcement économique spécialisée dans l'épargne et le crédit pour la scolarisation des enfants travaillant dans les plantations de cacao. Patricia Kouadio, la présidente de l'association, explique comment ce projet fonctionne et comment il a changé la vie des femmes et des enfants dans leur village.
Aujourd'hui, il y a des femmes qui font ces travaux-là. Comme la CEPRET nous aide, on a de l'argent, je peux prendre du crédit comme je prends. Si je prends, je trouve une femme, je dis bon, aujourd'hui j'ai besoin de quelqu'un pour m'aider dans mon champ. Elle me dit le prix c'était 2000 ou bien 1500. Je lui donne son argent et cette femme va m'aider dans mon champ. Mon enfant ne va plus au champ.
En Algérie, les femmes sont sorties dans les rues de la capitale pour manifester en faveur de leurs droits. En Éthiopie, le 8 mars a été célébré avec un vol transatlantique dont l'équipage était entièrement féminin. au Kenya, Kassiva Mutua, une percussionniste de renommée, remet en question les tabous traditionnels en jouant publiquement du tambour.
Dans le contexte du continent africain, il n'y a pas que le Kenya qui a ce genre de restrictions. Vous savez, en Afrique de l'Ouest, il est complètement tabou de jouer du djembé.
Il
y a des rituels et des cérémonies auxquelles les femmes n'ont pas le droit d'assister. Alors le simple fait de comprendre cela m'a permis de comprendre comment aborder l'industrie de la musique et la communauté. Et pour faire court, j'ai trouvé ma voie. J'ai dû surmonter ces obstacles et je pense que ces obstacles ont été très importants pour m'enraciner et comprendre le rôle que je joue dans la société en tant que percussionniste, en tant que femme qui a décidé que c'est ce que je veux faire.
En Afrique et partout dans le monde, les femmes ont célébré la journée du 8 mars pour réitérer la nécessité de continuer le combat en faveur de l'égalité.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
La triathlète américaine Julie Moss est un symbole de la puissance de l'esprit humain et du vrai dévouement, même face à la douleur et à l'épuisement. Angelina Bagdasarian a rencontré la légende du championnat du monde d'Ironman. C'est un récit de Yacouba Ouedraogo.
Faire du jogging le long de la rive de l'océan est un rituel pour Julie Moss. Beaucoup la considèrent comme la triathlète la plus célèbre dans le monde après qu'elle ait littéralement rampé jusqu'à la ligne d'arrivée dans le championnat du monde d'Ironman en 1982 à Hawaï. Moss a terminé deuxième dans cette course après avoir parcouru 3,8 km de nage, 180 km à vélo et 42 km de course. L'événement a été retransmis en direct à la télévision américaine.
Je l'ai regardé après à la télévision et j'ai été hypnotisée n'ayant pas vraiment fait quoi que ce soit compétitivement, athlétiquement. J'étais une surfeuse californienne, j'étais étudiante et j'étudiais l'éducation physique et la kinésiologie et je pense que ce fut un grand projet.
Sans formation spéciale, Moss s'est retrouvée de façon inattendue à la tête de la course, mais tout à coup, son corps a cédé.
Dans les 16 derniers kilomètres du marathon, j'étais en difficulté. Mes calories ne semblaient pas me donner de l'énergie. J'étais tellement inexpérimentée par rapport à cette longue journée. Donc pour la dernière heure, j'ai eu l'impression que j'essayais juste de passer d'une station à l'autre pour obtenir un peu de nourriture. Puis, c'est au dernier kilomètre que mes jambes se sont effondrées. J'ai dû me battre pour ne pas abandonner et me recentrer sur ce que je pouvais faire, trouver un moyen de décoller. Et quand mes jambes ne faisaient plus attention aux signaux de mon esprit, j'ai compris que je pouvais utiliser mes bras.
Moss avoue qu'elle avait un peu honte. Après tout, elle était regardée par des dizaines de millions de téléspectateurs à travers le monde.
C'était difficile physiquement parce que mon corps s'écroulait. Je pense qu'au fur et à mesure que c'était dur physiquement, mon esprit devenait plus fort.
Elle a continué à se battre jusqu'à la ligne d'arrivée sous le regard de milliers de personnes. Kathleen McCartney, qui avait initialement environ 20 minutes de retard, a devancé Moss à quelques pas de la ligne d'arrivée, mais le monde se souviendra toujours de Moss.
Ironman a changé ma vie. Le changement s'est produit dans ce dernier kilomètre d'Ironman. Et j'ai appris que c'est quand vous êtes dans une situation extrême que vous découvrez de quoi vous êtes vraiment capable. Ce que l'Amérique a vu et ce que le monde a vu dans ma course à Ironman, c'est que nous avons tous une force en nous, de sorte que nous pouvons aller aussi loin que nous voulons.
Aujourd'hui, pour des raisons de santé, Moss ne peut pas participer au marathon, mais à 61 ans, elle a encore un rêve.
L'un de mes rêves, c'est peut-être d'être là sur la ligne de départ au 50e anniversaire d'Ironman.
Certains pourraient dire que c'est fou, mais rien n'est impossible pour Moss. Elle a prouvé non seulement à des millions de personnes, mais aussi à elle-même.
voilà, fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Mise en onde par Lionel Gaïma, présenté par Abdourahmane Dia. Ainsi va le monde aujourd'hui. On reste en contact sur Facebook et sur notre site voafrique.com pour l'actualité 24 heures sur 24. Au revoir.
Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. N'Djamena sur 93.1 FM, Kledou FM Bamako, Raga FM Goma, 96.5 Fraternité FM, Parakou Bénin et bien d'autres encore, sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.